بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de partager un peu de temps pour ce dernier audio, dernier programme concernant les grandes nuits, concernant la dernière décade. Donc on parle vraiment des grandes nuits de ce grand mois, de ce mois béni de Ramadan. Et nous clôturons ces interventions par la thématique la plus importante, celle pour laquelle Allah a légiféré cette nuit, celle pour laquelle Allah nous a accordé ce cadeau et le but pour lequel nous avons été créés, al-ibadah, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah nous a créés que pour faire son ibadah, son adoration. Et Allah nous demande de faire son ibadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, selon le tafsir des savants, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne notre âme. Nous devons rester fermes dans la droiture, dans le ta'a, de l'obéissance, et donc dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et notre Seigneur nous a donné un laps de temps, une espérance de vie qui va différer d'une personne à l'autre. Et durant cette période, le temps, c'est qu'il y a un amanah qu'Allah nous accorde, nous nous devons de nous rapprocher le plus de notre Seigneur et nous protéger de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal et son châtiment. Et le cadeau qu'Allah a accordé à cette Ummah, c'est un temps qui ouvre, certains moments de l'année, qui ouvre la porte sur une autre notion de temps. Chaque année, Allah Rabbul Izzah nous accorde une nuit, donc la nuit du destin, où nous pouvons obtenir presque l'équivalent d'une vie de bonnes actions. Parce que Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, la nuit du destin, en termes de rétribution, donc elle est meilleure que 1000 mois. Ça nous ramène à peu près à 83 années. Ce qui correspond, comme on avait dit hier, à l'espérance de vie d'un être humain à notre époque, subhanallah. Donc, imaginez que, bi'idhnillah, j'ai eu 10 années, ou 20, ou 30, Laylatul Qadr, ou 40 durant ma vie. Ben, imaginez, ikhwan et khawati fillah, la quantité de hasanat, de bonnes actions qui sont écrites dans mon livret de compte et qui me seront remis dans mes livrets le jour de Qiyama et que je verrai, Inch'Allah, dans la balance. Ikhwan et khawati fillah, s'il y a bien un moment de l'année qu'on ne peut pas se permettre de rater, ben c'est la nuit du destin. C'est exactement comme si on allait au Hajj et qu'on sensibilisait les pèlerins en disant que là aujourd'hui c'est le 9e Dhul Hijjah. Nous venons de quitter Mina ce matin et nous sommes dans le bus, nous sommes en route vers Arafat. Et le wukouf va bientôt commencer dans quelques instants. Et il y a bien un moment qu'il ne faut pas rater durant ce hajj, c'est le wukouf Arafat. Le but, c'est pas juste d'être présent. On est sous une tente, on est avec les pèlerins, alhamdoulilah, on bénéficie de ce qui descend des cieux. Mais l'homme intelligent, le pèlerin, qui a fait ce déplacement, cet investissement, qui a donné de son temps, qui a pris des congés, qui, mashallah, supporte la chaleur. En ce moment, il fait très chaud là-bas. Et ce pèlerin intelligent, c'est celui qui va profiter, mais vraiment de la première minute du wukouf jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'on dise que voilà, maintenant c'est le coucher du soleil, on va à Muzdalifa et prier là-bas. Ben, le mu'min, le jeûneur maintenant intelligent, il est comparable au pèlerin intelligent. Il sait finalement que lorsqu'on est dans la dernière décade, les nuits impaires, il ne faut surtout pas les rater. Les nuits du destin, les nuits potentielles du destin, ça peut être les nuits paires ou impaires de la dernière décade en fonction de la lune, mais ne pas laisser une seule nuit de la dernière décade sans qu'on y consacre le maximum, vraiment le maximum d'efforts. Jusqu'à un point où on est persuadé qu'on a tout donné et qu'on est arrivé au point de l'épuisement. On dit toujours que là, dans le din, dans l'islam, c'est le juste milieu, al-wasatiyya, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Le prophète alayhi salat wa salam n'aimait pas que les sahaba en faisaient trop dans les bonnes œuvres. L'histoire de celui qui avait dit, qui s'était confié qu'il ne dort plus la nuit, il fait ibadah, le prophète était mécontent parce qu'il n'a pas respecté le juste milieu. Ce sont des notions qu'on a déjà intégrées. Mais concernant la nuit du destin, là, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut. Et ces derniers temps, essayer d'écrire quelques posts pour encourager les personnes qui se retrouvent un peu en difficulté et qui voient qu'ils ont du mal à tenir. Mais il ne faut pas non plus se dire que je fais un peu d'effort et puis voilà, Allah connaît mes faiblesses. Au contraire, il faut essayer de tirer vers le haut autant que possible. Et lorsque, vous savez, quand est-ce que c'est bon? C'est quand on est épuisé, quand on n'en peut plus. Quand on n'en peut plus, quand on sent qu'on a mal aux genoux, aux chevilles, au dos et qu'on a tellement donné et que là on s'assoit, on s'affale presque, excusez-moi, et on sait qu'on est épuisé, c'est que, alhamdoulilah, j'ai tout donné. Et Allah est témoin de mes efforts, de mon investissement, il faut le faire. C'est vraiment le moment où on peut obtenir une quantité de récompenses. Et justement la thématique, « Mada nuqaddimu ?» Quelle action on accomplit? Ben, tout ce qu'on peut et tout ce qui est réalisable durant 5 heures ou 6 heures, c'est-à-dire l'équivalent d'une nuit. Parce que, ikhwani rawati fillah, on doit se souvenir de ce hadith dans lequel il est stipulé que lorsque les comptes commencent, ijtama'a 'amaluhu kulluhu, que toutes les actions du croyant sont réunies, les bonnes mais également les mauvaises. Et le mu'min retrouve l'intégralité de ses actions, bonnes comme mauvaises. Et parmi les mauvaises, il retrouve les kaba'ir, mais également les sara'ir, les péchés graves et les péchés, les petits péchés, entre guillemets. Les péchés extérieurs, les péchés intérieurs. Et à ce moment, il est trop tard pour demander pardon à Allah, sauf si Allah décide d'accorder son pardon, ça c'est autre chose. Et il n'est plus possible d'augmenter non plus notre quota de a'mal salihah, de bonnes actions. Ça veut dire que c'est vraiment maintenant, c'est toute la vie bien sûr qu'il faut faire les bonnes œuvres, mais c'est aussi durant la nuit du destin qu'il faut vraiment cumuler le maximum de hasanat pour que nos livrets de compte soient le plus lourd possible le jour de Qiyamah. Et Aïcha radiallahu anha avait posé une question au prophète alayhi salat wa salam. C'est ce genre de hadith qui nous, on va dire, qui nous secoue un petit peu. On a besoin des fois d'être un petit peu secoué et de réaliser ben, qu'est-ce qui nous attend vraiment de l'au-delà. Qu'est-ce qui fait qu'une personne finisse par se laisser aller à ses passions, ses pulsions, et répond à ses penchants, à ses péchés, et qu'une personne fait preuve de paresse et de réticence quand il s'agit d'accomplir de bonnes actions, de se lever dans la nuit pour prier? Qu'est-ce qui fait que c'est qu'on n'a pas réellement compris, on n'a pas réalisé qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà. Et Aïcha radiallahu anha, elle avait cette particularité, Aïcha, Umm al-Mu'minin, de poser des questions pertinentes et des questions précises, des questions ciblées. Et parmi ces questions extrêmement précises, elle a demandé, Ya Rasulallah, Hal tadhkurun ahlikum yawm al-qiyam? Est-ce que tu te souviendras de nous? Est-ce que tu vas nous connaître le jour de Qiyam, au prophète d'Allah, en parlant d'elle et de sa famille proche? Faqana alayhi salat wa salam, amma fi thalath mawatin, fala yadhkuru ahadun ahada. Sache, O Aïcha, que pendant trois situations de l'au-delà, personne ne connaîtra son prochain. Ça veut dire que même Muhammad ibn Abdullah alayhi salat wa salam ne connaîtra pas ni Aïcha, ni Khadija, ni sa fille Fatima radiallahu anhunna ajma'in. Parce que ce sont des étapes de l'au-delà. Allah a décidé que les créatures vont se débrouiller seules. Ils n'auront que leurs actions et au-dessus de la clémence d'Allah. Quelles sont ces trois situations? On ne va pas commenter le hadith, c'est long. حَيْثُ يُوضَعُ الْمِيزَانِ, au moment où la balance est mise en place et que les actions sont posées dans la balance. Jusqu'à ce que la personne voit et constate que est-ce que c'est une balance qui est légère, c'est-à-dire peu de bonnes actions, ou qui est lourde en bonnes œuvres. La deuxième situation, tatayir al-kutub, lorsque les livrets sont remis. Lorsque les livrets sont remis à chaque individu. Et que, en fait, les livrets sont en direction donc des individus, jusqu'à ce que la personne voit ayna yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimali, jusqu'à ce qu'il voit. Est-ce que son livret d'action tombe dans sa main droite ou dans sa main gauche, ou alors qu'Allah nous protège derrière son dos, ce qui serait la pire des situations, la main gauche et derrière le dos. Et troisième situation, lorsque nous serons tous appelés à passer sur le sirat, le fameux pont suspendu sur le feu de l'enfer dont nous avons tous entendu parler de la description. Et jusqu'à ce que ce croyant sache est-ce qu'il réussira à passer oui ou non. C'est-à-dire des situations où chaque croyant sera livré à lui-même. Et les savants disent quel est le point commun entre ces trois situations de l'au-delà, la balance, la remise des livrets et comment les livrets nous sont remis, comment est-ce qu'on les réceptionne, c'est que le livret va se fusionner et on va l'attraper de la façon dont Allah a décrété. Comment, de quelle façon, Dieu seul le sait, mais ce sont des situations de l'au-delà. Et le troisième, et le point commun avec la troisième situation, c'est le passage sur le sirat. Ben, en fait, ces trois situations ont un point commun, c'est ce qu'on a présenté, ce qu'on a amené depuis ce dunya jusqu'au akhira en termes de bonnes actions et également en termes de péchés. Autant les bonnes actions vont alourdir la balance des bonnes âmes et les péchés vont nous être préjudiciables dans ces trois situations. Donc les savants disent que ce hadith fait partie des hadiths d'éveil spirituel et de prise de conscience qu'on a grandement besoin, un, cumul de bonnes œuvres et effacer tous les péchés que nous avons cumulés jusqu'à maintenant dans notre livret de péchés, de seyyi'at et de ma'ansi, d'où l'importance de se focaliser ce soir et le 29e et toutes les nuits de la dernière décade sur trois actions essentielles. Quelles sont les trois actions qui doivent faire partie, qui doivent, on va dire, composer nos nuits de ibadah? On a bien sûr la salah, les prières, on va en parler. On a le istighfar, la demande de pardon à Allah Azza wa Jal, et on a les doigts. Le istighfar, on a compris, c'est pour mahwi dhunub, le pardon des péchés. La salah, on a compris, c'est pour l'augmentation de hasanat, de bonnes actions, cumul. Et les doigts, bien sûr, c'est pour le destin, c'est pour le taqdir, et ça répond à tout ce qui descend durant cette nuit. Concernant le istighfar, Alors, le prophète Ali, on choisissait le hadith, on a un hadith muslim, là aussi ça fait partie des hadiths de prise de conscience, pour qu'on réalise que les péchés que je suis en train d'accomplir maintenant, que je cumule, et pour lesquels je n'ai aucun remords, et que je laisse cumuler sans même me rendre compte que ce sont des péchés, ben, le jour de Qiyam, le Khazam dit que les gens seront ressuscités, et les gens vont être dans des difficultés de l'au-delà, avec la sueur, la transpiration qui va atteindre les chevilles, le mollet, les genoux, la taille, et certaines personnes vont être presque noyées de la transpiration. Ce sera une des situations de l'au-delà, une des situations périlleuses de l'au-delà, et qui découle directement de la quantité de péchés qu'on emmène avec nous, c'est-à-dire depuis ce dunya, péchés pour lesquels je n'ai pas pu demander pardon. Ce n'est pas que je n'ai pas trouvé le pardon divin. C'est qu'Allah Rabbul Izzah pardonne, mais subhanallah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Une échelle qu'on ne peut même pas concevoir. Mais bien malheureux celui qui n'a pas levé les mains, qui n'a pas su demander pardon pour ses péchés. Et le plus malheureux, c'est celui qui est enterré avec ses péchés. Entrer dans la tombe, mourir et entrer dans la tombe avec ses péchés, c'est déjà un échec. Ça veut dire que autant de situations qu'Allah nous a accordées pour trouver son pardon, ça commence par les ablutions, les pas que nous faisons en allant à la mosquée, entre les prières d'un vendredi à l'autre, subhanallah, les umrah, et ainsi de suite. Autant de situations, on ne peut pas tous les énumérer. Celui qui, malheureusement, passe à travers ces filtres de clémence et de marfira, c'est vraiment un homme malheureux et qui se présente devant le tribunal d'Allah avec des péchés. Mais vous savez, c'est une parenthèse. En général, quels sont les péchés qui traversent ces filtres de clémence, de miséricorde, de refrain et de pardon? En général, ce sont les péchés qui sont en rapport avec notre prochain. Parce que Allah ne nous pardonne pas un péché, bien sûr, qu'on a accompli à l'encontre d'un frère. Insulte, calomnie, médisance, semer la discorde entre les couples, les familles, la zizanie, porter atteinte à l'honneur d'une personne, voler les biens de quelqu'un, détourner de l'argent, et ainsi de suite. Tous les péchés, on a bien compris, qui sont en rapport avec notre prochain, pour ces péchés-là, les nuits du destin ne sont pas suffisantes. Le multazam, entre la porte et de la Kaaba et la pierre noire, cet endroit n'est pas suffisant non plus. Arafat n'est pas suffisant non plus. Parce qu'on a fait du mal à une créature d'Allah, et ça se paye cash. Soit on va se rabaisser, on demande pardon à la personne et il accepte nos excuses, ou alors on le retrouve le jour de Qiyama, c'est le fameux hadith al-Muflis qu'on avait cité hier, où la personne a cumulé des bonnes œuvres, des Laylatul Qadr aussi, et que le jour de Qiyama, il se voit dépouillé de tout ça parce qu'il a fait beaucoup de mal, il a fait du tort aux gens. Et là, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Vous savez, quand on voit des tyrans, je ne vais pas citer leur nom bien sûr, quand on va dans certains pays où il y a des massacres, où il y a vraiment des... On parle de crimes contre l'humanité, où il y a... Certains ont même utilisé des armes chimiques, mais que le monde n'a malheureusement pas condamné. On voit ce genre de tyran qui continue à prospérer, à régner, à être respecté, à être même reçu parfois par d'autres chefs d'État. Avoir une certaine légitimité, on se dit que comment est-ce possible que de tels zalim puissent être honorés de ce dunya? On se pose ces questions et on s'indigne. Il y a deux choses. N'oubliez pas qu'avant ces tyrans du XXe siècle, il y en a eu de pires. On parlera de Pharaon. Il est amplement suffisant de parler de Pharaon qui avait réduit à l'esclavage les Israélites. D'accord ? Et il ne faut pas oublier que le jour de Qiyama, ce qui est réservé aux tyrans, c'est quelque chose de terrible. Et que lorsqu'Allah laisse ce genre de personnes faire du mal, c'est parce qu'Allah a réservé un châtiment qui est terrible et exemplaire pour ces gens le jour de Qiyama. Donc ne vous en faites pas. Et par contre, nous à notre niveau, faisons attention à ne pas faire de mal, à ne pas causer du tort à nos proches. En priorité, faisons attention à nos relations avec nos parents. Et ça, c'est vraiment un manquement chez les jeunes mariés à notre époque. Je ne parle pas des jeunes. Très souvent, on se focalise les jeunes et tout. Non, les jeunes, machallah, il y a beaucoup de bien en eux, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de khair. Et j'ai beaucoup d'espoir en cette génération, alhamdoulilah. Mais parfois, c'est quand on a la tranche d'âge, 25, 30 ans, marié, un enfant, c'est là qu'on développe un syndrome anti-parent. Parfois, ça peut être légitime. Parfois, il se peut qu'on ait eu dans notre enfant des parents qui étaient toxiques et qu'à un moment donné, on prend notre indépendance et on veut dire non. Il y a une petite révolte intérieure. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un développement psychologique, mais il y a une petite révolte intérieure qui ne veut plus. Ne veut plus de ces situations où les parents dominent et tout. Et là aussi, c'est très complexe. Il y a des parents qui ont une mauvaise vision de la tarbiya, de l'éducation, qui crée une telle dépendance, une telle relation de culpabilité entre eux et leurs enfants, qu'en fait, ils précipitent leurs enfants dans des péchés. Ils créent des situations de malaise, et telles que les enfants n'ont plus d'autre choix à un moment donné d'être désagréables, de se prendre des distances avec eux, parce qu'ils ont été toxiques, ils n'ont pas arrêté de... Voilà, ça, il faut faire attention dans l'éducation que nous donnons. Nous devons ouvrir des portes de bienfaits pour nos enfants, faire en sorte que dans notre façon d'agir avec eux, qui doit être respectueux, ben, ils sont valorisés, et qu'eux-mêmes, ils ont un retour positif qui est instinctif. C'est un retour d'amour. Et c'est là qu'on se sauve, nous, et qu'on les sauve. Et non pas... Parfois, il y a des parents qui ont des anciens, une éducation un petit peu à l'ancienne. Et là, c'est valable pour toutes les cultures. Hein, chez les Indiens, hein, on sait c'est quoi. Et quand on discute avec les frères et sœurs de métropole, d'accord, là-bas aussi, à la sauce harissa, c'est pas simple non plus. Et chez nous, avec le masalé, avec le marcha, comme on dit, c'est pas simple non plus. En fait, c'est une question parfois c'est culturel, et là quand même on doit être attentif au mode occidental dans l'éducation, qui est quand même une éducation un peu plus bienveillante, même si parfois ça manque de cadre, mais il y a un peu plus d'ouverture et manifestation d'amour pour les enfants. Bon, après vous allez dire que oui, les résultats en Europe, beaucoup de parents sont placés dans des maisons de retraite, EHPAD, ou certains parlent même de mouroir. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de système parfait. Tant que c'est lié à la culture, ce n'est pas parfait. Il n'y a pas la culture occidentale qui est mieux que la culture indienne ou asiatique ou autre chose. À partir du moment où la relation se base sur les textes prophétiques, ben c'est là qu'il y aura le juste milieu. Donc on revient, on doit faire très attention à nos relations avec nos parents et avec les proches, parce que ce sont les péchés qu'on paye réellement cash au jour de Qiyama. Et là-haut, il n'y a pas de cadeau. Jamais on trouvera un papa ou une maman qui va dire « Non, je pardonne à mon fils, je lui donne des bonnes œuvres. » Non, aucunement. Bilax, les gens vont essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent avec vous. Même entre un époux et son épouse, s'il y a eu du mal qui a été fait, ben, les parties vont essayer de régler leur compte là-haut afin de récupérer des bonnes œuvres et se délester de péché. C'est cru de le dire de cette façon, mais ce sont des réalités de l'au-delà. Donc, faisons en sorte de bien gérer notre temps entre les bonnes œuvres, la demande de pardon et les invocations pour nos adhiya, pour ce qui nous est cher. Parmi les douas que notre prophète alayhi salat wa salam nous enseigne, on va commencer par cette thématique, les douas. Il y a bien sûr le doua que Aïcha radiallahu anha avait obtenu du prophète sallam, Allahumma innaka afoun, tuhibbu al'afwa fa'afu anni. Certains disent qu'il ne faut surtout pas dire Allahumma innaka afoun, karim, tuhibbu al'afwa fa'afu anni. Vous savez, si vous rajoutez karim, c'est généreux. Donc ça n'annule pas notre nuit du destin, il ne faut pas non plus exagérer. Mais la formule enseignée par le prophète sallam, c'est cette version, Allahumma innaka afoun. Et je pense que tout le monde a dû lire déjà des écrits, des posts sur les réseaux sociaux et autres concernant la portée du terme al-afou, et si une personne veut approfondir le nom d'Allah, on a dans des rubriques l'étude des noms d'Allah, cette thématique, ce nom d'Allah a été abordé, et al-afou dépasse al-maghfira. Le afou, c'est mahw al-dhunub hatta la yabqa atharun. C'est un tel niveau de pardon des péchés qu'il ne reste plus la moindre trace. La fi suhufi wala 'inda al-malaki wala fil ardi wala fi jasadik. Les savants disent qu'il ne reste plus la moindre trace de ses péchés ni dans le livret d'action ni les anges qui l'ont inscrit, ils n'ont plus, il n'y a plus trace de leur côté aussi, ni la terre où le péché a été accompli, qui normalement témoigne contre l'homme jour de Qiyama si péchés ont été accomplis sur son dos, ni la terre ne garde souvenir de ses péchés, ni notre corps, parce que nous savons que le jour de Qiyama, le corps va témoigner contre le péché. Yom atashhadu alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ila akhir al-aya, qu'Allah nous protège. Et al-mahou, c'est un pardon qui est tellement vaste et profond et qui nettoie littéralement le croyant, que le jour de Qiyama, la personne n'aura aucune inquiétude, ce péché, inshallah, ne sera pas présent dans son livret de compte. Et la personne n'aura pas l'angoisse du fait de porter ce fardeau et ce péché le jour de Qiyama. Donc ce doigt est puissant. Ikhwan ikhawati fillah, le demander autant que possible. On ne va pas dire 100 fois, 1000 fois ou autre, parce que ce n'est pas à nous de fixer des quotas. Mais ce qu'on peut proposer comme conseil, c'est de ne pas le lire, on va dire, 100, 200, 300 fois d'affilée. Non. Essayons d'apprécier ce doigt, en prenant conscience que on dit à Allah, on atteste, oh Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes pardonner. Oh Allah, accorde-moi ton pardon. C'est-à-dire qu'on, déjà, on atteste qu'Allah est pardonneur. Et que pardonner, c'est quelque chose qu'Allah aime faire. Ça émane de sa bonté, de sa gentillesse, de sa clémence, de sa miséricorde. Et là, on demande à Allah, oh Allah, accorde-moi ton fa'afouani, accorde-moi ton pardon. Donc, le demander avec cœur, et quitte à espacer ses doigts, le faire, le lire 10 fois, 20 fois, et puis prier, et puis le relire encore, afin qu'on apprécie cette demande de afou, cette demande de pardon. Hada. Il y a un doua aussi qui nous a été enseigné, c'est A'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi afwika min uqubatik. Mais on va rester sur des douas qui sont plus simples et faciles à intégrer et à mémoriser. Hada. Concernant la bonne répartition du temps, ce qui nous fait défaut, c'est le fait que nous n'ayons pas l'habitude, comme on avait dit, de passer du temps en ibada. Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est déjà de prendre conscience que la nuit commence islamiquement au coucher du soleil. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est au moment de rompre le jeûne, au moment du iftar, de rompre le jeûne, de demander à Allah, vous savez qu'on a un droit à accepter au moment de la rupture du jeûne, « Ya Rab, accorde-moi le tawfir de passer cette nuit en ibada. Ya Allah, ouvre ma poitrine, Rabbi Shahli Sadri, ouvre mon cœur et donne-moi la guider et accepte-moi pour faire le maximum de bonnes œuvres, de trouver la concentration, la dévotion, la présence de cœur, l'implication durant cette nuit, Ya Allah. » On avait dit également que prendre un bain de Maghrib et Isha, c'est une bonne chose, c'est une sunna. Et soit on démarre après le Tarawih, après une petite pause, mashallah, ou si une personne doit se reposer un petit peu pour trouver de la force, chacun voit comment il peut gérer. Je dis également qu'il est bien de se parfumer et de se faire beau pour notre Seigneur, de mettre de beaux habits et surtout des habits qui sont propres. Des habits qui sont propres et dédiés à cette nuit d'adoration. Conseil pratique. On évite tout ce qui est téléphone portable et tout ce qui peut nous détourner ou altérer notre concentration. Et également, peut-être, c'est un conseil pratique, réunir tout ce dont on aurait besoin. Ne pas laisser Shaitan nous perturber. Voilà, là tu as soif, là peut-être que, excusez-moi, mais ton nez coule, il te faut un mouchoir et tout. Mets-toi à côté de toi. Prends un paquet de mouchoirs, prends un verre d'eau, une bouteille d'eau et il fait en sorte que tout ce dont tu as besoin, c'est rien. Que quand tu es dans un endroit, mashallah, tu y restes, mashallah, pour le ibad. Idéalement, choisir un endroit, mashallah, où on est concentré, il n'y a rien qui va nous perturber. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de commencer ce tahajjud sur Qiyamul Layl par deux unités de prière khafif, à deux raka'at qui sont courtes. Ne pas démarrer directement avec de longs raka'at, c'est deux, on va dire, ce sont des raka'at d'ouverture, d'introduction, on prend un petit peu la mesure de des prières qui commencent. Et donc, idéalement, commencer par deux prières, deux raka'at avec des surat ou des passages qui sont très courts. Et on se fixe comme objectif de faire au minimum 10 unités de prière, 10 rak'at de tahajjud. Et après, on voit si on clôture avec le witr ou alors si on a fait le witr en congrégation le soir. Donc, il n'y a plus à le refaire, bien sûr. On va donner priorité à des longues unités de prière. Ce qu'on veut dire, c'est que le tahajjud, ce n'est pas la prière où on va lire « قُلُوا اللَّهُ وَحَدْ قُلَا عَدْ بُلَا فَلَا قُلَا رَبِّ النَّاسِ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ » Non. Il faut faire vivre ces rakats de tahajjud au mieux et passer le plus de temps possible dans chaque position de la prière. Dans certains hadiths, il y a une description des tahajjud du Prophète sallallahu alayhi wa sallam où on parle des qiyams, des stations debout, qui étaient très longues, mais également des rukours qui étaient très longs, presque aussi longs que le qiyam, et les prosternations qui étaient aussi longues que les génuflexions, et la position assise entre les deux prosternations qui était presque aussi longue que les positions debout. C'est-à-dire que il n'y a pas de mal à ce que, ou alors plutôt, ce serait bien que deux unités de prière nous prennent entre 20 et 25 minutes. Ça fait bizarre de le dire comme ça. En général, deux rakats, c'est vite pliant, 3 minutes, 4 minutes, mais non. Là, il faut vraiment qu'on ressente que c'est une prière qui est différente. Et pour ça, si on est hafid al-Qur'an, mashallah, on a le choix de lecture. Maintenant, si on n'est pas hafid al-Qur'an, on ne doit pas se dire que je ne connais pas le Qur'an par cœur, donc je me rabats vers Alam Tara, Lila fi Quraysh. Non, je pense que si on connaît au moins la sourate Yasin, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, al-kahf, ayatul kursi, les derniers versets de la sourate Baqara, ces versets que normalement on doit mémoriser, donner priorité à ces versets qu'on n'a peut-être pas l'habitude de lire dans la salah pour qu'on ressente que ce sont des prières différentes et pour qu'on puisse faire de longues unités de prière. Donc, privilégier des longues lectures. Par exemple, Yassine à lire en deux rakats, ce qui serait bien. Ou Tabarak al-Hadi dans une unité de prière. Hada. Et essayer de lire d'une voix audible. Le tahajjud ne se fait pas jahri, une voix haute comme Salat al-Isha Maghrib, mais ne pas chuchoter non plus qu'une voix où on s'entend nous-mêmes et ça nous amènera un peu plus de concentration dans notre lecture. Autre point concernant la salat, bon, on avait parlé un peu des doigts, on reviendra là, on est en train de parler des prières. On doit essayer de varier un peu nos adhkar dans les différentes positions. Je parle du rukour, du sujoud. En génuflexion, on a l'habitude de lire Subhan Rabbil Azim. Maintenant, ce que je peux conseiller, c'est de lire la citadelle du musulman, où on a, dans le chapitre 17, les autres invocations qui sont sunnah concernant le ruku'. On a par exemple Subhanakallahumma, Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Gloire et pureté à toi, ô notre Seigneur, et à toi la louange, ô Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est adhkar. Le but, c'est pas juste de varier les adhkars et d'en réciter plein. C'est d'avoir connaissance sur la profondeur et la portée du ma'ana, le sens de ces adhkars, et donc les lire avec cœur, avec insistance et avec vraiment amour d'Allah Azza wa Jal. Et quand on avait dit que le ruku, c'est le ta'zim, c'est on essaie de glorifier notre Seigneur, ben c'est vraiment ressentir la puissance d'Allah dans cette position qui est difficile, et en faisant les louanges qui rappellent la puissance d'Allah Azza wa Jal. Pareil pour le sujoud, on avait eu l'occasion d'expliquer que le sujoud par excellence, c'est la position du istislam, de soumission à Allah Azza wa Jal. On a Subhan Rabbi al-A'la, oui, mais il y a également d'autres adhkars comme Subuhun Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. Ça fait partie des adhkars qui se démarquent et qu'il serait bien de lire. Et un coup de cœur, on va dire, pour une sunna, une habitude de notre prophète, alayhi salat wa salam. Le prophète, alayhi salat wa salam, en prosternation, avait l'habitude de lire « Allahumma ghfir li dhanbi kullah » دقه وجله وأوله وآخره وعنانيته وسره. Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les plus bénins comme les plus graves, les premiers comme les derniers, ceux commis en public et ceux commis en secret. Déjà, prendre conscience du sens de ce dhikr, et quand on va le lire, subhanallah, c'est comme si on se dit que mon front ne décollera pas du sol tant que j'obtiens pas le pardon divin. Et le répéter 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que des larmes coulent de nos yeux et qu'on ressente vraiment la culpabilité d'avoir commis des péchés, d'avoir désobéi à Allah, et la reconnaissance d'être devant notre Seigneur, qu'il nous accepte quand même pour être en prosternation, et les remords et le besoin qu'on a de trouver le pardon d'Allah, qu'Allah accepte notre repentir. Donc ce doigt, il est magnifique pour ça, de le lire en prosternation. On essaie de le mémoriser et de comprendre le sens et de le lire en sujoud. Ça va nous apporter une grande richesse en termes de concentration et de dévotion dans nos prières. Et dernier conseil, il y a une position dans la salat qui est méconnue, qu'on traverse et qu'on le fait de façon très rapide malheureusement. C'est la position assise, Bayna Sejidatayn, entre les deux prosternations. Il est sunnah de dire Rabbi Ghafirli, répéter 2 fois, oh Allah, pardonne-moi. Et notre prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a enseigné également notre doua, Allah, maghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Oh Seigneur, pardonne-moi. Accorde-moi ta miséricorde, guide-moi, pense mes blessures, assure-moi le salut et procure-moi ma subsistance et élève-moi, ya Allah. Le mu'min qui reste 5 minutes dans cette position assise et qui pense très fort, oh Allah, accorde-moi ton pardon, pitié de moi, élève-moi. Subhanallah, ce qu'il ressent dans son tahajjud, il se rend compte que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des adhkar qui font que cette prière est vraiment exceptionnelle. Donc à nous de mettre toutes les champs de notre côté pour donner de la lumière à nos prières et faire en sorte que ces prières soient vraiment illuminées par des adhkar enseignés par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des longues unités de prière. Hada. Les savants disent également que dans le sejda, la prosternation, il ne faut pas oublier que c'est la position où on est le plus proche d'Allah azza wa jal. Et comme le Prophète avait demander ce doigt de pardon, ben on peut également, dans le sujoud, lire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doigt par excellence pour demander pardon pour nos péchés. Ou, si on ne connaît pas encore, le fameux sayyid al-istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, qui est très long, mais c'est le moment de faire des sujouds de 10 minutes. Peut-être la seule fois de l'année où on fait des prosternations aussi longues, quitte à réduire le nombre de rakat qu'on va faire en soirée. Parce que voilà, il y a des gens qui disent que, mais comment on va remplir 4 heures ou 5 heures de ibada, on va faire quoi, on va s'ennuyer? Ben non, si vous faites si chacune de vos 2 rakat dure 20 ou 30 minutes, on aura le quota, mashallah, et c'est une nuit bien remplie en ibada et surtout des ibada variés et de qualité. Ce qui est bon de faire également, c'est ce qu'on appelle at-tabaki, c'est faire semblant. C'est pas vraiment faire semblant, mais c'est provoquer, faire comme si qu'on pleurait. Et c'est une bonne chose de le faire, surtout quand on est seul, pas en public, de le faire seul. Et si avec ça, on peut réellement provoquer un peu d'émotion et se dire que At-Tabaki, essayer de pleurer, ben, on ne le fait que devant Allah, Azza wa Jal. Voilà quelques conseils concernant la salat et la bonne façon de le faire et la bonne répartition du temps. Pas 2 unités de prière qu'on va faire comme on fait les 2 rak'ats de sunan après la salat de Dhuhr, par exemple. Non. Des prières qui se distinguent, qui sont longues, et des recours, des sujouds qui doivent être très très longs. J'allais presque dire jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'on soit vraiment fatigué. Qu'Allah nous donne la possibilité de le faire, et de faire au mieux, Inch'Allah. Hada. Concernant les douas, justement, on avait vu, je reviens légèrement sur cette thématique, on avait vu Allahumma innaka afuwwun, tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait dit un hadith rapporté par Bukhari. Le prophète nous a enseigné que le mu'min doit choisir les invocations qui lui sont le plus chères, qu'il aime le plus, et il doit invoquer Allah par ces invocations qu'il aime le plus. C'est-à-dire que ne pas se focaliser sur un seul doua, mais à nous de trouver notre sensibilité par rapport à une invocation qu'on aime. Et lorsqu'on voit que c'est une invocation qui provoque quelque chose de notre cœur, bah le faire au mieux et le faire avec concentration et dévotion. Après un moment donné, il est sûr que répartition du temps entre 10 unités de tahajjud, 10 rakat, et des rakat qui sont longues, comme on expliquait, et beaucoup de istighfar, et l'istighfar, on ne va pas développer parce qu'on a eu l'occasion de parler des conditions, les remords pour les péchés et l'intention ferme de ne plus les recommencer et essayer de pleurer en demandant pardon à Allah, montrer qu'on regrette ces moments passés dans la désobéissance. Et subhanallah, avec ça, on a une bonne répartition du temps et les doigts. Et les doigts, les invocations, en bien sûr donnant priorité aux doigts que les différents Rabbana, que notre Seigneur nous a révélés. Mais comme on a eu l'occasion d'expliquer, les doigts, c'est quelque chose d'intime. On a le temps pour les doigts qui sont issus du Coran et de la Sunna, mais il faut consacrer un certain temps également pour converser avec Allah et livrer à notre Seigneur nos peines, nos attentes, notre tristesse et converser, parler avec Allah Azza wa Jal. Et donc, que de notre cœur va émerger des paroles qui sont profondes, qui sont sincères et qu'on ne peut dire que qu'à notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est mieux aussi que dans cette nuit, on le passe isolé, hein, pas avec d'autres personnes, afin que voilà, on puisse s'exprimer et nous laisser aller à nos émotions. Et ce serait une chose magnifique que de pouvoir pleurer lors de la nuit du destin, car le prophète dit que parmi les gens qui seront sous l'ombre de son trône, jour de Qiyama, c'est Rajulun Zakarallaha Khalian Fafabotaina, un homme qui a pensé à son Seigneur dans l'intimité, dans l'obscurité de la nuit, seul, et qui se met à pleurer, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de trouver cette concentration, cette dévotion pour, Inch'Allah, verser des larmes et l'invoquer avec sincérité et demander le maximum de doigts à Rabbana Atina Fidunya Hassana, Rabbana Akhirati Hassana, Rabbana Azabanar, mais également des doigts qui nous sont plus personnels. Et il faut vraiment aller vers des doigts qui sont personnels concernant notre vie, notre santé, pour nos enfants, pour nos parents, pour tout ce qui est important à nos yeux, c'est Allah qu'on doit demander. Et parmi les doigts que nous devons demander qui nous seront profitables directement, c'est faire doigt pour notre prochain. Ça m'a dit que lorsqu'un croyant fait doigt pour son prochain, un ange vient et dit qu'Allah t'accorde la même chose que tu demandes pour ton frère ou pour ta sœur. Donc ça augmente nos chances, en guillemets, d'avoir nous-mêmes, de voir nous-mêmes des invocations acceptées pour nous, nous concernant. Et bien sûr, parmi le doigt, nous allons bien sûr demander à Allah Azza wa Jal d'accorder la santé aux personnes qui souffrent du Covid-19 et de protéger ceux qui ne sont pas atteints et d'éradiquer totalement cette maladie et que nous nous retrouvons délivrés de cette waba, de cette maladie, de cette pandémie, mais que nous en ressortions, Inch'Allah, grandis avec des acquis spirituels, avec beaucoup plus d'humilité. Et qu'Allah nous permette également, parmi les doigts qu'on doit demander, c'est l'istiqama, qu'Allah nous donne la possibilité de rester ferme dans les bonnes œuvres et rester fermement éloigné des péchés en dehors du mois béni. Et s'il y a un laps de temps où on a donné le maximum et qu'on voit qu'on a encore du temps, c'est que vous avez beaucoup de baraka de votre temps, félicitations. Il n'y a pas de mal à prendre des kutayyib, les livres qui ont été traduits en français. Il y a pas mal d'ouvrages, il y a des versions PDF qui circulent sur sur WhatsApp, des du'as, des adhkar, et c'est très bien. Si on peut faire, on peut lire ces adhiya qui sont issus de la sunnah. Mais là aussi, ne pas aller vers la lecture hifdhan ou la lecture brute, essayer de fusionner lecture et compréhension, et ça nous sera très profitable. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de passer une nuit en ibadah correctement et de tirer le maximum profit de cette nuit. Tawfiq illah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.